Mathieu Plessia est un jeune chercheur français qui vient de publier 2 tomes de son livre intitulé « Les Tziganes » aux éditions de l'Harmattan en France. Un livre tiré de la thèse de sociologie qu'il a rédigée en réalisant des enquêtes en République tchèque. Alors, pourquoi la République tchèque? C'est une des questions que lui a posée Alexis Rosenzweig dans cette nouvelle rubrique « Panorama ».
Panorama.
Panorama.
Mathieu Plessia, bonjour. Vous venez de publier en France, aux éditions de l'Harmattan, 2 tomes d'un livre qui, je crois, est tiré de votre thèse de sociologie réalisée ici. Nous sommes au CEFRES de Prague. Est-ce que on peut parler d'abord de l'idée de départ? Comment est-ce que vous est venue l'idée de travailler sur ce sujet, sur les Tziganes, peut-être en Europe centrale en général, et puis plus spécifiquement, on en parlera après, en République tchèque?
Alors c'est surtout lié à mon parcours personnel. Et en fait, l'idée m'est venue lors d'un séjour Erasmus en Espagne, en Andalousie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris, je me suis intéressé en passant par le folklore gitan. Je me suis aperçu qu'il y avait cette ambiguïté entre à la fois le faire valoir pour l'Andalousie du folklore, tout en ayant ce deuxième aspect qui est celui des tziganes considérés comme des parasites pour la société espagnole. Donc c'est cette ambiguïté-là qui m'a intéressé dès le début, à la fois les gitans faire valoir et les gitans considérés comme les parasites de la société qui m'a intéressé. En rentrant en France, à l'occasion d'une maîtrise et d'un DEA à l'époque, je me suis intéressé à la question des aires de stationnement des gens du voyage. Et c'est l'aspect terminologique des dénominations, puisqu'on les considérait, c'était les gens du voyage, qui m'a surtout intéressé au début.
C'est l'enjeu du premier tome, et peut-être des premiers chapitres de votre thèse, en tout cas du premier tome de ce livre, qui, si je me souviens bien, s'appelle donc « Les Tziganes, entre nation et négation », c'est-à-dire définir, la difficulté de définir ce qu'est un Tzigane.
Voilà, donc je me suis intéressé en allant dans l'optique d'une thèse cette fois-ci, donc c'est-à-dire une recherche beaucoup plus approfondie, c'est-à-dire de m'intéresser au positionnement des acteurs qui tentent en effet de définir ce qu'on appelait, bon, dans le cadre de l'Europe centrale, jusqu'en 89, les citoyens d'origine tzigane. Méthodologiquement, la difficulté consistait à savoir qui est tzigane, de qui ne l'est pas. Question qui, d'un point de vue sociologique, scientifique, pose vraiment problème, puisque les critères objectifs font défaut. Et je me suis intéressé, j'ai fait le choix de m'intéresser, en fait, à celui qui parle des tziganes, ceux qui en parlent avant tout. Ce qui m'a permis, en étudiant les acteurs qui se positionnent sur cette question-là, d'identifier des positions qui se sont révélées finalement antagonistes, c'est-à-dire opposées, finalement très polarisées, entre ceux qui prétendent qu'il y a un groupe, une communauté tzigane homogène, et ceux qui au contraire la nient, d'où la question, les tziganes, entre nation et négation.
Vous parliez d'Andalousie, après de France. Qu'est-ce qui vous a amené ici jusqu'à Prague pour travailler sur ce sujet?
Il est apparu que la République tchèque constitue un laboratoire sociologique particulièrement intéressant, puisqu'il est possible d'apprécier en République tchèque la mise en place, en un court intervalle d'une décennie, la mise en place de 2 politiques d'intégration. Et s'agissant d'intégration, il est d'ordinaire, on oppose d'ordinaire 2 types de modèles, 2 types de politiques d'intégration, qui est le modèle multiculturel, c'est-à-dire on valorise une communauté et en valorisant cette communauté, on constitue donc une forme d'intégration, ou l'intégration dite républicaine, c'est-à-dire à la française, où on privilégie les individus, qu'il s'agit d'intégrer à la société individuellement. Et la République tchèque, en une décennie, a mis en place ces 2 modèles alternativement.
On parle surtout en République tchèque des ce qu'on appelle en tchèque les sociálné vyloučení, c'est-à-dire les exclus sociaux, avec notamment le référencement ou la délimitation géographique de localités socialement exclues. Alors, l'étude commandée par le gouvernement en dénombrait plus de 300, si je me souviens bien. Et vous, dans votre travail pour votre thèse, vous avez réalisé des entretiens, des enquêtes sociologiques dans ce genre de localité, et notamment à Kladno, donc pas loin de Prague. Pourquoi ce choix, et est-ce que ça a été difficile de réaliser ces entretiens?
Alors, la République tchèque était donc intéressant en ceci que dans les années 90, on a pu observer donc la mise en place d'une politique multiculturelle, surtout à la suite des scandales des exodes roms au Canada et en Angleterre, qui a donné lieu au rapport Bratinka. Donc, des mises en place de politiques multiculturelles avec la mise en place de porte-parole, d'élites roms, une politique de quotas aussi également. Puis, suite à l'accession de la République tchèque à l'Union européenne, on observe cette fois-ci un basculement, une critique tout d'abord de cette politique multiculturelle et cette fois-ci la mise en œuvre d'une politique d'intégration sociale.
Une critique parce que un constat d'échec de la politique multiculturelle?
Un constat d'échec, oui, parce que en effet, les porte-paroles, il y a eu des affaires de scandale des élites. Mais plus que ça, je pense que la critique est venue avant tout d'anthropologues de l'école de Pilsen, qui ont critiqué radicalement l'aspect construit de la nation, les contradictions qu'on pouvait observer entre les idées et la réalité du terrain, la pauvreté, et surtout que je crois la République tchèque, et comme les principaux pays, ne sont pas pour une politique qui favorise les communautés et donc la relation entre l'État et les citoyens. Ils sont pas pour un intermédiaire. Et puis, il faut aussi noter que la stratégie de Lisbonne va dans le sens de la lutte contre l'exclusion sociale et donc une lecture de la pauvreté, de la discrimination et de la marginalisation en termes d'exclusion sociale et non plus en termes ethniques. C'est ça, en fait, les deux variables qui sont utilisées. Dans les années 90, on a des variables culturelles et politiques. À partir de 2004, à partir des années 2000, un basculement vers des variables, cette fois-ci, sociales et économiques. On ne considère plus la communauté rome, on considère désormais les individus exclus socialement. L'objectif donc de mon enquête consistait à observer en République tchèque la mise en place de ces deux politiques d'intégration, le multiculturalisme et la politique de lutte contre l'exclusion sociale, de déterminer en effet des acteurs qui défendent ces positions et de voir comment des solutions sont envisagées et d'observer leurs applications concrètes sur le terrain pour saisir comment les acteurs concernés par ces politiques, d'une part une minorité rome, d'autre part les individus exclus socialement, comment ces personnes réagissent à ces dispositifs pour enfin envisager éventuellement une piste nouvelle, une troisième voie éventuellement dans les réactions de ces acteurs.
Pourquoi Kladno donc?
Concernant donc la politique d'intégration sociale, la lutte contre l'exclusion sociale, donc en effet une étude commanditée par le ministère des Affaires sociales, financée par le Fonds social européen et conduite donc par le cabinet de sociologie Gabal, avait évalué environ 300 localités dites d'exclusion sociale. Il s'agissait donc, dans une de mes enquêtes, de me rendre dans une de ces localités d'exclusion pour observer comment les habitants de ces espaces interagissent et réagissent dans ces espaces contraignants et en effet poser la question de l'identité. Kladno se présentait comme une localité particulièrement intéressante puisque à proximité de Prague, Kladno présentait 5 localités dans sa ville, ce qui était finalement un assez grand nombre comparativement aux autres villes de République tchèque.
5 localités socialement exclues, comme le décrivait le rapport.
Tout à fait, oui. Et avec des taux de concentration, toujours selon le rapport, très élevés. J'avais aussi entendu parler des affaires du Maso Combinat, donc il y avait un intérêt sociologique très intéressant à se rendre là-bas pour conduire des enquêtes.
Masso Combinat, une ancienne fabrique, une ancienne usine de traitement de viande où ont été aménagés des logements assez insalubres où habite une forte concentration de la population rom. Ça a été difficile, ces entretiens, d'aller et de faire parler ces gens de leur situation?
C'était... quand il s'agit de faire une enquête de terrain dans ce type d'espace, on prévoit déjà une enquête sur le long terme. Les enquêtes ont duré 7-8 mois, où il s'agissait de se rendre le plus souvent possible. Il y a aussi un aspect déontologique, il y a un aspect éthique, il y a une préparation des entretiens. On passe généralement par des intermédiaires, des personnes qui ont l'habitude de fréquenter ces endroits. Il y a aussi la question du positionnement du chercheur à l'intérieur de ces espaces, la question de l'observation, de l'interprétation, les affinités qu'on peut avoir avec les habitants, nos interlocuteurs, la question du rôle du sociologue, qui est pas toujours facile, puisqu'en tant qu'étranger, j'étais régulièrement interpellé sur la misère sociale. Il y a aussi la question... de la violence sociale au quotidien de ces personnes. Ça fait partie du métier de sociologue de venir, d'observer, de récolter le discours de ces personnes, de le retranscrire dans un livre, de le communiquer et continuer son chemin malheureusement.
C'était le chercheur français Mathieu Plaisia qui parlera plus en détail de ses enquêtes menées auprès des Roms à Cladno la semaine prochaine dans l'émission Panorama.